Vous avez entendu par gens dignes de foi que notre compagne la reine d'Angleterre n'ose venir par devers nous par peur de sa vie et doute qu'elle a de Hugh le Despenser. Certes, très aimé frère, il ne convient pas qu'elle se doute de lui ni de nul autre homme vivant en notre royaume. Car par Dieu, il n'y a ni Hugh ni autre vivant en notre territoire qui mal lui voulût, et s'il nous venait de le sentir, nous le châtirions en manière que les autres en prendraient exemple, ce dont nous avons assez de pouvoir, Dieu merci. C'est pourquoi, très chers et très aimés frères, encore vous prions spécialement pour honneur de vous et de nous, et de notre dite compagne, que vous veuillez tout faire pour qu'elle vienne par-devers nous le plus en hâte qu'elle pourra, car nous sommes moult chagrinés d'être privés de la compagnie d'elle, chose que nous n'eussions en nulle manière faite sinon par la grande sûreté et confiance que nous avions en vous, et en votre bonne foi, qu'elle reviendrait à notre volonté. Édouard exigeait également le retour de son fils et dénonçait les tentatives d'assassinat imputables aux ennemis et bannis au-delà, dirigées contre l'évêque d'Exeter. Certes, la colère de ce 1er décembre avait dû être forte et les voûtes de Westminster en répercutaient longtemps les échos criards. Car pour le même motif et sur le même ton, Édouard avait écrit encore aux archevêques de Reims et de Rouen, à Jean de Marigny, évêque de Beauvais, aux évêques de Langres et de Laon, tous pères ecclésiastiques, au duc de Bourgogne et de Bretagne, ainsi qu'au comte de Valois et de Flandre, père laïque, à l'abbé de Saint-Denis, à Louis de Clermont-Bourbon, grand chambrier, à Robert d'Artois, à Mils de Noyers, président de la Chambre comte, au connétable gaucher de Châtillon. Que Mahaut fût le seul pair de France excepté de cette correspondance, prouvait assez ses relations avec Édouard, et que celui-ci ne jugeait pas de besoin de l'avertir officiellement de l'affaire. Robert, en décachetant le pli qui lui était destiné, entra en grande joie et arriva tout s'esclaffant et se frappant les cuisses chez sa cousine d'Angleterre. La bonne histoire est bien faite pour qu'il la savourât. Ainsi le roi Édouard envoyait chevaucheurs aux quatre coins du royaume pour instruire chacun de ses déboires conjugaux, défendre son ami de cœur et clamer son impuissance à faire rentrer son épouse au foyer. Infortuné pays d'Angleterre, en quelles mains d'étoupe le sceptre de Guillaume le Conquérant était-il tombé? Depuis les brouilles de Louis le Pieux et d'Aliénor d'Aquitaine, on n'avait rien ouï de meilleur.
« Faites-le bien, cornard, ma cousine !» criait Robert. « Et sans y mettre de gantelet, et que votre Édouard soit forcé de se courber en deux pour passer les portes de ses châteaux. N'est-ce pas, cousin Roger, que voilà tout ce qu'il mérite ?»
Et il frappait gaillardement l'épaule de Mortimer. Édouard, dans son emportement, avait aussi décidé des mesures de rétorsion, confisquant les biens de son demi-frère le comte de Kent et ceux du lord de Cromwell, chef d'escorte d'Isabelle. Mais il avait fait plus. Il venait de sceller un acte par lequel il s'instituait gouverneur et administrateur des fiefs de son fils, duc d'Aquitaine, et réclamait en son nom les possessions perdues. Autant dire qu'il réduisait à néant et le traité négocié par sa femme et l'hommage rendu par son fils.
« Libre à lui, libre à lui !» dit Robert d'Artois. « Nous allons donc lui reprendre une nouvelle fois son duché, du moins ce qu'il en reste. Les arbalètes de la croisade commencent à se rouiller. »
Nul besoin pour se faire de lever l'ost, ni d'expédier le connétable dont l'âge durcissait les jointures. Les deux maréchaux à la tête des troupes permanentes suffirait bien à aller cogner un peu en bordelais sur les seigneurs gascons qui avaient la faiblesse, la sottise, de demeurer fidèles au roi d'Angleterre. Cela devenait une habitude, et l'on trouvait chaque fois moins de monde en face de soi. La lettre d'Édouard II fut l'une des dernières que lut Charles de Valois, l'un des derniers échos qui lui parvinrent des affaires du monde. Monseigneur Charles mourut au milieu de ce mois de décembre. Ses obsèques furent pompeuses, comme l'avait été sa vie. Toute la maison de Valois, dont on s'aperçut mieux de la voir ainsi en cortège combien elle était nombreuse et importante, toute la famille de France, tous les dignitaires, la plupart des pairs, les reines veuves, le Parlement, la Chambre des comptes, le connétable, les docteurs de l'université, les corporations de Paris, les vassaux des fiefs d'apanage, les clergés des églises et abbayes inscrites sur le testament, conduisirent jusqu'à l'église des franciscains, pour qu'il y fût couché entre ses deux premières épouses compagnes, le corps, rendu bien léger par la maladie et par l'embaumement, de l'homme le plus turbulent de son temps. Les entrailles, ainsi que Valois en avait disposé, furent transportées en l'abbaye de Chalis, et le cœur, enfermé dans une urne, remis à la troisième épouse pour attendre le moment où elle aurait elle-même une sépulture.